Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mardi 22 septembre, 7h30.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Et bienvenue à vous, c'est Marc Bourreau qui est aux commandes et Bridgestone, en tout cas la direction japonaise, ne cède pas aux injonctions, mon cher Marc, du gouvernement. On ferme.
La fin de l'activité de l'usine de Béthune reste la seule option possible. Le constructeur de pneus persiste et signe après une réunion de crise hier avec les ministres du Travail et de l'Industrie. Pour autant, l'État obtient un léger sursis à défaut d'un plan B, une contre-expertise afin de trouver des alternatives pour sauver le site qui emploie actuellement 863 salariés. Sur place, les partenaires sociaux gardent toujours un peu d'espoir, Victoire Fort.
Les syndicats veulent croire que la mobilisation commence à porter ses fruits et que Bridgestone reverra sa copie. Stéphane Le Six de la CFDT.
On va dire que ça avance dans le bon sens. Il nous faut un gros investissement. On nous donne les machines, on nous donne la technologie, on va faire des gros pneus et on va gagner de l'argent en béthune.
Produire des pneus plus gros, plus compétitifs fait partie des plans B. Sauf que tous les ouvriers ne seraient pas gardés. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France.
S'il y a des machines nouvelles, il y aura aussi moins de personnel, donc on devra retrouver du boulot pour le personnel qui ne sera pas dans cette nouvelle unité.
La lucidité est de mise. Sur la table aussi, une reconversion du site en usine de recyclage du pneumatique.
Si c'est pour nous parler d'une activité avec 30 salariés, il ne faut pas se moquer du monde non plus. Donc c'est vraiment des projets avec quelques centaines de salariés. C'est ça qui nous intéresse.
Rien n'est gagné, mais l'État appâte le fabricant japonais. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie.
On a des moyens financiers aujourd'hui, au travers du plan de relance, qui nous permettent de construire des alternatives. On sait investir en équipement sur un site, on sait financer des formations de salariés.
La ministre précise qu'à quelques kilomètres de Béthune s'ouvrira bientôt une usine de batteries de voitures électriques. Comme si le gouvernement se préparait déjà au scénario du pire.
Et le rendez-vous est donné dans 2 à 3 semaines avec la direction de Bridgestone pour une nouvelle réunion avec l'entreprise japonaise. Le dialogue de sourds va-t-il se poursuivre sur le télétravail? Énième discussion aujourd'hui entre partenaires sociaux. Le patronat estime que les règles actuelles sont insuffisantes. Pour les syndicats, il faut encadrer la pratique.
Voilà, nous sommes dans une curieuse ambiance ce matin car on a l'impression que nos voisins se méfient de nous, les Français. Lyon renforce à minima ses mesures pour enrayer la flambée de l'épidémie.
À partir d'aujourd'hui, les visites dans les EHPAD sont limitées à 2 personnes par résident et par semaine. Pas plus de 1000 participants pour les rassemblements publics. Masque obligatoire dans la rue pour 10 communes supplémentaires, mais on ne touche pas aux horaires des bars et des restaurants. De nouvelles restrictions locales qui rappellent celles de Bordeaux, de Marseille, sont-elles pour autant suffisantes pour ralentir l'épidémie? Pour le professeur Gilles Pialou, chef de service d'infectiologie à l'hôpital Tenon à Paris, le gouvernement n'ose en fait pas imposer des mesures strictes pour le moment.
La conjonction est compliquée parce que vous avez à la fois la circulation du virus, le fait qu'il y a une politique gouvernementale qui a déconcentré les décisions, mais sans donner vraiment de cahier des charges, et sur le terrain totalement cacophonique. Voyons comment se passent les mesures non coercitives, voyons si le réflexe citoyen est efficace, notamment sur les mesures barrières, laisser éventuellement la place dans les laboratoires à ceux qui en ont le plus besoin, mais ça, effectivement, c'est un vœu pieux. Le discours politique coercitif est compliqué actuellement parce qu'il est mal accepté parce qu'il y a eu la cacophonie de la première vague, mal accepté parce qu'on est dans un pays qui a du mal à se voir imposer des règles de société.
Des propos recueillis par Rémi Pfister. Le nombre de cas, lui, continue de grimper au niveau national. Un peu plus de 5000 cas en 24 heures. 45 malades supplémentaires en réanimation. Pendant que les préfets resserrent la vis, le ministère de l'Éducation nationale desserre l'étau. Les fermetures de classes ne sont plus systématiques en maternelle et primaire. En dessous de 3 élèves positifs au Covid-19.
Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez bizarre dans la politique gouvernementale de ce point de vue-là. Pendant ce temps, le monde du spectacle attend toujours de relever le rideau.
Et oui, le secteur est dramatiquement éprouvé par la crise sanitaire. Producteurs, salles, festivals, promoteurs, le spectacle vivant est paralysé depuis 6 mois. Une entreprise sur deux risque la faillite d'ici la fin de l'année malgré le plan de soutien de 220 millions d'euros pour le secteur privé. C'est le constat de son principal syndicat Prodis. L'un de ses membres, Aurélien Binder, président de la salle Playel, dénonce un protocole sanitaire inadapté.
Les mesures de distanciation sont en train de tuer notre métier et jettent en plus l'opprobre sur une profession avec une incohérence sanitaire entre les transports en commun et nos salles de spectacle qui nous sont extrêmement préjudiciables pour une reprise de notre activité. En faisant ça, on fait comprendre que nos lieux de spectacle sont les pires lieux pour pouvoir se contaminer, alors que c'est totalement faux. On attend vraiment le gouvernement sur l'arrêt des mesures de distanciation. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Les régions, les unes après les autres, ou les grandes villes sont en train de faire diminuer le curseur de 5000 personnes à 1000 personnes. L'Île-de-France devrait y passer à la fin de la semaine. Ça nous met dans un état d'angoisse absolument catastrophique.
Des propos recueillis par Rémi Vallès. La parole aux rescapés de la prise d'otage de l'hypercacher aujourd'hui dans le procès des attentats de janvier 2015 à Paris. Les assises spéciales entendent ce mardi une ancienne caissière et l'ex-magasinier Lassana Batelli. Par ailleurs, selon le magazine Le Point ce matin, on apprend que la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo a été la cible de menaces à son encontre pendant le procès. Marie Cabrette révèle avoir été exfiltrée de son logement la semaine dernière par les services de sécurité.
Assemblée générale de l'ONU sous l'ère du Covid.
Ouais, 75e édition, Guillaume, elle s'ouvre aujourd'hui à New York. Une grand-messe virtuelle, épidémie oblige, sont attendus ce mardi les discours du président brésilien Jair Bolsonaro et de l'américain Donald Trump. Enfin, la disparition d'un monument du cinéma, le comédien Michael Lonsdale s'est éteint hier à l'âge de 89 ans. Une immense carrière sur les planches et devant la caméra, de Baiser volé à James Bond, du Nom de la Rose au film Des Hommes et des Dieux, César du meilleur second rôle en 2011. Lors de son discours, Michael Lonsdale racontait une anecdote assez cocasse autour du film de Xavier Beauvois, sa rencontre avec l'archevêque de Strasbourg.
Il m'emmène dans l'église, la grande cathédrale de Strasbourg, et là j'entre et qu'est-ce que je vois ? 1200 personnes. Ça fait un choc. Et pour vous dire la joie qu'on a de temps en temps dans ce métier, l'archevêque finit son petit speech d'introduction et me dit « Maintenant, je vais laisser la parole à Michael Jackson. » Rien ne pouvait me faire plus plaisir.
La voix de Michael Lonsdale qui nous a donc quitté hier à 89 ans. Journal imprévisible spécial à suivre avec Renaud Blanc à 7h50.
Et évidemment, il est 7h37, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Dimitri Pavlenko, je me calme, avec Emmanuel Faux. J'ai amené mon petit passeport français. Et il y a écrit Union Européenne par-dessus, donc au-dessus de la République Française. Et visiblement, ce matin, en matière d'Union Européenne, c'est plus que compliqué concernant l'épidémie, puisque tous nos voisins se méfient de nous, ceux qui appartiennent à l'Union Européenne. Et ceux qui n'y appartiennent pas, comme par exemple les Suisses et beaucoup d'autres. 7h37, les voici mes camarades.